au début de cet entretien comme au début de chaque entretien, remettons-nous sous la motion de l'esprit. Nous confions au Père du ciel qu'il nous donne l'esprit pour découvrir toujours plus le visage de son Fils, qu'il nous donne de le découvrir toujours plus profondément dans l'Évangile pour l'aimer, le suivre et le servir. Ensemble, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, bonjour à tous. Nous poursuivons notre retraite. Et nous sommes dans cette troisième journée de retraite. Où en sommes-nous exactement de notre pèlerinage en Terre Sainte il y a 2000 ans, qui est aussi et qui fait écho à notre pèlerinage intérieur à la suite du Christ, notre lien personnel, intime que nous renouvelons dans le cadre de cette retraite. Souvenez-vous, la première journée, nous avons surtout éclairé à travers deux rencontres ce qu'était le cœur de notre vie de disciple. Il s'agissait d'aller, de voir, de demeurer avec Jésus, et plus précisément encore dans l'après-midi, avec l'intercession et la médiation de Marie, il s'agissait aussi de faire tout ce que Jésus nous dira, d'entrer dans sa volonté qui est évidemment celle du Père. Et tout cela pour vivre des épousailles, une union spirituelle qui est le fondement même finalement de notre vocation, qui est le fondement même de notre mission, s'unir au Christ pour partager le Christ à ceux vers qui nous sommes envoyés. La deuxième journée hier est une journée qui nous a précisé en particulier deux des grandes médiations de la vie spirituelle qui nous aident à grandir dans cette union, qui nourrissent cette union. Le matin, nous avions rencontré Nicodème, un notable pharisien auquel Jésus avait révélé qu'il fallait naître d'en haut. Et cela avait éclairé la nécessité pour nous de la vie de l'Esprit, la place de l'Esprit Saint par les sacrements, bien évidemment la porte des sacrements qui est le baptême, mais plus particulièrement aussi la parole de Dieu et la manière dont la parole de Dieu nourrit notre ministère, nourrit notre vie chrétienne. Je vous invitais à réfléchir à la place de cette parole dans votre vie de prêtre. Et puis, hier après-midi, souvenez-vous, un pas de plus avec la rencontre de la Samaritaine qui nous mettait au plus intime de la relation avec le Seigneur, c'est-à-dire notre vie de prière, particulièrement l'adoration et les adorateurs que le Père cherche. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous faisons un pas de plus et notre journée va nous conduire à mettre en lumière ce qui peut freiner cette vie d'union. Nous avons vu hier deux des grands moyens que nous donne bien évidemment notre Église, la prière, les sacrements, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir, d'abord ce matin, nous allons voir ce qui est de l'ordre du péché voulu, du mal voulu plus exactement, le péché, à travers une rencontre avec la femme adultère au chapitre 8. Cet après-midi, nous verrons le chapitre 9, l'aveugle de naissance, non pas le mal voulu, mais le mal subi, et qui peut freiner notre vie spirituelle, mais qui peut aussi être chaque fois un moyen d'aller plus en profondeur dans notre vie intérieure. Plus exactement, nous avons quitté Jésus à la fin du chapitre 4. Je vous avais invité à lire entre les rencontres ces passages de l'Évangile selon saint Jean. Vous avez vu que le chapitre 4 s'est poursuivi avec le retour de Jésus à Cana et le second signe que va faire à Cana Jésus. Nous sommes dans la période après Pâques, c'est très important. Nous sommes dans tout ce moment du chapitre 4, du chapitre 5 aussi, dans la première année de ministère de Jésus. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, nous sommes dans la première année du ministère. Chapitre 4, Jésus revient en Galilée, après avoir traversé la Samarie. Et puis au début du chapitre 5, on nous dit, à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Et il va monter à Jérusalem dans une fête qu'on identifie comme la fête de Soukhot, la fête des cabanes, la fête des tentes qui a lieu à l'automne, au moment des moissons. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une très très forte opposition entre Jésus et ses contemporains. En particulier, je vous l'avais annoncé dès le premier jour, souvenez-vous, Nombre 16, 24, qui a l'autorité ? Et toute la conflictualité du chapitre 5, c'est la question de l'autorité. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement, etc., etc. Donc Jésus est en conflit avec les pharisiens, auxquels il explique qu'il fait les œuvres du Père. Mais vous avez aussi précisément, alors que nous sommes au début du chapitre 5, déjà la décision de supprimer Jésus. Ça va très vite en Saint Jean. Je vous ai dit, le conflit est là d'emblée. Verset 18 du chapitre 5, « Dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr. Car non seulement il violait le Shabbat, ça c'est encore l'enfance de l'art à la limite, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Voilà. » Le motif de la condamnation de Jésus est déjà présent en Saint Jean dès la première année de ministère. Et puis, l'évangile passe au chapitre 6. Il enjambe plusieurs mois de mission de Jésus dont on ne sait rien. Puisque le chapitre 6, vous le savez, c'est un chapitre qui prépare la fête de la Pâque, la deuxième Pâque de Jésus en Saint Jean. Chapitre 6, il est à Capharnaüm. Et puis, il va y avoir les deux signes qu'il va poser, la marche sur la mer et puis la multiplication des pains. Jésus multiplie les pains, on veut faire de lui un roi, il s'enfuit et dans la nuit, il rejoint ses apôtres en marchant sur la mer. Et puis, aura lieu alors un texte très important, si nous avions plus de jours, nous pourrions prendre le temps, j'aime bien le commenter, chapitre 6 sur le pain de vie. Avec non seulement la conflictualité venant de l'extérieur, mais la conflictualité intérieure à la communauté, aux premiers croyants. Avec ce passage très émouvant, au verset 66 du chapitre 6, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessaient de faire route avec lui. Parce que Jésus a annoncé qu'il fallait boire son sang et manger sa chair. Le terme en grec est avec la résonance en hébreu derrière, est beaucoup plus forte. C'est mâché, c'est croqué. Nous, on dit pudiquement, on pense à l'hostie. Ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, pardonnez-moi la formule, très propre et très, très déterminé dans une culture très précautionneuse qui est la nôtre, de l'adoration du Saint-Sacrement et de la protection du Saint-Sacrement. J'ai envie de dire qu'il nous est confié comme ministre et intendant des mystères de Dieu. Mais Jésus est en train de dire à ses contemporains qu'il va falloir le mâcher. Il va falloir, c'est insupportable pour un juif. Évidemment, il va falloir boire son sang, ce qui est insupportable là aussi. Et donc, on comprend qu'il y ait une réaction extrêmement vive. Et Jésus va alors demander aux douze, « Et vous, n'avez-vous pas l'intention de partir ?» Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et puis, Jésus retourne donc à partir de là. Nous sommes à la fin du chapitre 6. Il va monter pour vivre la fête de la Pâque. Nous n'avons aucune indication sur la fête de la Pâque. Deuxième année de la Pâque de Jésus. Aucune information. Et au début du chapitre 7, cette formule laconique, dans la suite, Jésus continua à parcourir la Galilée. Donc on imagine qu'après Pâques, il est revenu en Galilée, continue son ministère, nous sommes dans la deuxième année. Il préférait en effet ne point parcourir la Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr. Donc vous voyez que Jésus commence, c'est assez caractéristique à Saint Jean, quand on regarde les coins de l'évangile, parce que d'habitude on lit toujours les mêmes textes, il y a les coins, ceux qu'on n'a jamais. Et si vous lisez les coins de Saint Jean, vous vous rendez compte que Jésus, progressivement, est un homme traqué en Saint Jean. Il y a une traque, on le cherche, on cherche à le faire périr. Et c'est la raison pour laquelle il évite la Judée. Il reste en Galilée. Cependant, la fête des tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Tu ne peux pas rester ici, va en Judée, afin que tes disciples, eux aussi, puissent voir les œuvres que tu fais. On n'agit pas en cachette quand on veut s'affirmer. Puisque tu accomplis de telles œuvres, manifeste-toi au monde. » En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Ça, groupe des personnes autour de lui, sa famille large, ne croit pas en lui. Donc vous voyez bien, c'est difficile. Hein, il y a les Juifs, il y a ceux qui sont partis, il y a sa propre famille. une tension qui est très forte quand on va dans le fond de l'évangile. Jésus leur dit alors, « Mon temps n'est pas encore venu, votre temps à vous est toujours favorable, le monde ne peut pas vous haïr, tandis que moi il me hait parce que je témoigne que mes œuvres sont mauvaises, que ses œuvres sont mauvaises. » Et alors Jésus dit, c'est très étonnant, « Montez donc à la fête, il les invite à partir, pour ma part je n'y monterai pas, car mon temps n'est pas encore accompli. » Jésus va rester en Galilée, il envoie les disciples, sa famille, monter pour la fête des tentes à Jérusalem, très bien. Après avoir ainsi parlé, il demeura en Galilée, mais lorsque ses frères furent partis pour la fête, il se mit en route lui aussi, sans se faire voir, et presque secrètement. Quand même bizarre notre Jésus. Hein, il laisse partir une escouade visible en avant, et lui monte finalement quand même à Jérusalem, mais presque secrètement, sans se faire voir. Pas tout à fait conforme parfois à l'image qu'on peut avoir. On traverse les grands passages de l'évangile, c'est des petits coins, comme je dis, qui nous montrent le climat dans lequel on se trouve. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que Jésus va arriver pour la fête de Soukhot, fête des tentes. Il va avoir une altercation assez violente de nouveau, mais on le laisse libre d'enseigner dans le temple, certainement parce que la foule a pris parti pour lui. Mais le dernier jour de la fête, Jésus va prendre la parole publiquement. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus se tint dans le temple et il se mit à proclamer à haute voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. » Comme l'a dit l'Écriture, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je vous rappelle qu'en Israël, à l'époque où Jésus prêche, tout comme Jean-Baptiste, on estime que l'inspiration est close et que l'Esprit-Saint n'agit plus en Israël. C'est la raison pour laquelle des textes qui aujourd'hui nous semblent évidemment inspirés ne sont pas reconnus à l'époque comme inspirés. Ézéchiel, par exemple, n'est pas reconnu comme inspiré à l'époque. Parce qu'on estime que l'inspiration est close. En tout cas, Jésus se met à parler. C'est important, pourquoi ? Faites des tentes, faites des cabanes, on vit à l'extérieur pendant 8 jours pour fêter le don de la loi au désert. On rappelle le fait que le peuple de Dieu a été en pleine dépendance, que Dieu seul est sa maison d'une certaine manière. Et le dernier jour de la fête, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une liturgie qui rappelle l'événement des eaux de Mériba. Ça vous dit quelque chose, les eaux de Mériba, hein, quand le peuple est au désert, il a soif, il a faim, il se met à se révolter contre Moïse, et Moïse va frapper à 2 reprises le rocher, et il va en jaillir de l'eau. Et donc cette liturgie importante des eaux de Mériba mobilisait toute la population, puisqu'on faisait monter de l'eau depuis une piscine en contrebas du temple, on arrosait le temple, et le rocher du temple, l'autel du temple, on l'arrosait avec cette eau pour rappeler l'événement du don de l'eau à Mériba. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient signifier que l'eau véritable, c'est lui qui la donne. Et puis, la foule se divise à son sujet, les gardes n'arrivent pas à l'arrêter en raison de la foule. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens, leur dire « Pourquoi ne les avez-vous pas amenés ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme », etc., etc. C'est la suite. Et que va faire Jésus alors ? Jésus va regagner le mont des Oliviers, c'est là où nous le retrouvons pour notre rencontre de ce matin. J'ai introduit de manière un peu longue, mais pour vous resituer vraiment le passage que nous allons voir et pour bien vous signifier le climat dans lequel nous sommes. On cherche à faire périr Jésus, on organise tout ce qu'il faut pour vouloir l'arrêter et le faire périr. Chapitre 8, donc, la rencontre de la femme adultère. Ils s'en allèrent chacun chez soi, et Jésus regagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là, et toi, qu'en dis-tu ? » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Je vous propose de nous arrêter sur ce texte en trois temps. D'abord, d'éclairer la rencontre et son contexte. Et l'échange entre Jésus et les pharisiens qui veulent lapider cette femme. Nous arrêterons d'abord sur cette rencontre de Jésus. Puis dans un deuxième temps, nous mettrons en lumière, parce que notre foi chrétienne est réaliste, les obstacles dans l'union au Christ. Puis dans un troisième temps, nous verrons que ces obstacles, c'est la question du péché dans nos vies, de la conversion, et c'est aussi l'expérience de la miséricorde. Premièrement donc, cette rencontre du chapitre 8 entre Jésus et cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Il est important et intéressant de savoir que la plupart des manuscrits de l'Antiquité, manuscrits que nous avons de Saint Jean, sont des textes où ce passage est absent. Par exemple, les pères grecs ne connaissaient pas ce passage, ils ne l'ont pas commenté. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de manuscrits ont circulé, certaines filiations de manuscrits, en expurgeant ce passage. Parce que, eh bien tout simplement, la manière de faire de Jésus semblait tellement forte et tellement miséricordieuse qu'elle gênait les communautés chrétiennes. On avait mis ce texte de côté. Qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit que Jésus vient au temple au point du jour, c'est-à-dire la première heure. Il a passé la nuit au Mont des Oliviers. Pourquoi ? Dans la journée, il est au temple, et comme on le voit dans le chapitre 7, une partie de la population prend son parti, et donc d'une certaine manière le protège. C'est pour ça que la garde n'a pas pu l'arrêter et l'amener au Sanhédrin. Mais la nuit, il n'y a plus personne dans le temple se ferme, et donc Jésus ne peut pas rester dans la ville, il va au Mont des Oliviers. Pourquoi ? Parce que le Mont des Oliviers, je suis un peu navré de porter atteinte à votre regard poétique sur la vie du Christ, mais le Mont des Oliviers, c'est à peu près la cour des miracles ou une zone de non-droit, pour parler avec le langage d'aujourd'hui. Le Mont des Oliviers, c'est une zone de non-droit. C'est une zone où vit et se réfugie tout ce qu'il y a de plus malfamé à Jérusalem il y a 2000 ans. C'est un ensemble de ruelles, de petits jardins, de cabanons, où on peut trouver idéalement à se cacher quand on a besoin de se cacher. Et c'est bien la raison pour laquelle, vous le savez bien, c'est bien parce que Judas ira montrer le lieu précis à la garde où se trouve Jésus qu'on pourra l'arrêter. Donc Jésus, tant qu'il est avec ses disciples dans le Mont des Oliviers, est tranquille, personne ne viendra le chercher. Et au petit matin, il peut revenir au point du jour au temple et il peut enseigner comme il le fait. Il est assis, la position de celui qui enseigne, du rabbi qui enseigne, et tout le peuple vient à lui. Donc on comprend qu'il y a cette protection de la foule qui apprécie de l'entendre. Vient alors, immédiatement, le verset 3, les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. Les pharisiens tendent un piège à Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là, et toi, qu'en dis-tu ? Ils parlaient ainsi dans l'intention de lui tendre un piège et d'avoir de quoi l'accuser. Il n'y a aucun doute sur l'intention de ces hommes. Et en fait, ils sont venus, en certaine manière, en organisant le piège parfait. Pourquoi ? Parce que quoi que fasse Jésus, et quelle que soit sa réponse, ils auront un motif pour le faire condamner. En effet, ils amènent à Jésus cette femme. D'abord, elle est prise en flagrant délit d'adultère, donc il n'y a pas de doute sur son péché à elle. Ensuite, ils amènent cette femme adultère et ils invoquent la loi de Moïse. Et c'est vrai que dans la loi de Moïse, vous avez ça dans le Deutéronome, au chapitre 22, dans le Lévitique, au chapitre 20, eh bien, il faut lapider les femmes adultères. D'ailleurs, leur amant aussi, préciser, celui qui avait participé au péché l'était aussi. Mais, et c'est très important, à l'époque où Jésus enseigne, à l'époque où il vit sa mission, Rome avait interdit les lapidations publiques. Donc la loi prescrit de lapider, mais Rome a interdit la lapidation. Donc vous voyez bien, on vient en le flattant, on lui donne du maître, voilà, on vient le flatter, on vient. Et puis, on lui tend un piège parfait, quelle que soit la réponse. S'il répond qu'il ne faut pas lapider, on dira que il ne respecte pas la loi de Moïse et on aura de quoi le condamner au Sanhédrin. S'il dit qu'il faut la lapider, eh bien on ira chercher les Romains et on expliquera que Jésus est en train de ne pas respecter la loi romaine. Que va faire alors Jésus ? Jésus va parler, mais il va parler avec son corps. Il va parler avec son corps. Il va parler symboliquement avec son corps. Il va se baisser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Jésus va d'abord se baisser. En se baissant, qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être, dans un premier temps, rejoint-il d'abord cette femme, qu'on peut imaginer, à terre. Elle a été amenée par ces hommes qui sont en furie, qui sont assoiffés de violence, de haine, qui sont assoiffés de violence contre Jésus d'abord. Et donc Jésus, en se baissant, vient rejoindre cette femme. Vous savez, quand quelqu'un est en grande souffrance et est au sol, la première des choses que l'on fait, c'est qu'on se baisse pour le rejoindre. Et puis, qu'est-ce que fait Jésus ? Il y a une deuxième chose qu'il fait, qui est absolument fondamentale, c'est qu'en se baissant et en faisant silence, Jésus évite d'entrer dans la provocation et évite d'alimenter le cercle de la violence. Il rompt la surenchère de la violence. Vous savez bien que quand des personnes sont en situation de violence, la première des choses que l'on fait, c'est qu'on se toise. Dans la cour de récré, quand on a 10-12 ans, on se toise, si tu veux, toi. On monte le menton, voilà. On rentre dans le rapport agressif, dans le rapport de violence. Vous savez que c'est Konrad Lorenz, l'éthologue, spécialiste de l'étude des comportements des animaux, et en particulier des mammifères, qui dit « Il n'y a qu'un seul mammifère dans tout l'ordre de la création qui combat son congénère en le regardant dans les yeux. » Un seul, c'est l'homme. Tous les autres mammifères, regardez des chiens, des chats qui se battent, ils ne se regardent pas. Ils se mettent l'un contre l'autre et se battent, mais ils ne se regardent pas dans les yeux. L'homme est le seul à regarder son congénère dans les yeux. En se baissant, Jésus évite de les toiser, évite de croiser leurs regards, et donc il rompt la surenchère de la violence. Il fait baisser la pression, d'une certaine manière. Et puis, mystérieusement, il annonce aussi ce pourquoi il est venu. En s'abaissant pour rejoindre cette femme, il manifeste ce que saint Paul nous rappellera dans l'Épître aux Philippiens, c'est-à-dire la kénose, son abaissement. Il s'est abaissé, lui qui était de condition divine, pour rejoindre cette femme qui, d'une certaine manière, est la figure de l'humanité blessée et pécheresse. Il supprime la surenchère et il abandonne le combat. Ce que Thérèse de Lisieux comprendra admirablement quand elle dira que quand le combat vient, elle est courageuse, elle s'enfuit et elle se réfugie dans les bras du Christ. Voilà. Et en même temps, Jésus fait autre chose qui nous a valu des centaines d'articles de théologie Il écrit au sol, entre ceux qui diront qu'il ne savait même pas écrire, hein, il y a eu des choses comme ça, et puis ceux qui nous font des grandes allusions ésotériques. Qu'est-ce que fait Jésus ? Quand on fréquente nos amis juifs, qui réfléchissent aussi à la question de Jésus, et de plus en plus, eh bien, ils vous disent, ben, qu'est-ce que fait Jésus ? Il est en train de mimer un rite du temple. Il est en train de faire un rite du temple. Il renvoie aux pharisiens un rite du temple. Pourquoi ? Quand une personne était accusée, en particulier d'adultère, il y avait un petit tribunal spécial dans le temple, avec des prêtres qui le géraient, pour gérer les questions d'adultère de femmes, et qui pratiquaient ce qu'on appelait le rite de la sota. Le rite de la sota consistait à écrire la condamnation sur un papier effaçable, sur quelque chose d'effaçable, et de faire passer une ordalie à la personne accusée. Et si la personne passait l'ordalie, on effaçait la condamnation. Et nos amis juifs qui travaillent l'évangile, qui les intéressent, puisque Jésus est un juif, il est de leur peuple avant tout, eh bien nous disent, c'est très certainement ce que Jésus est en train de faire. Il leur rappelle le rite de la sota. On ne peut pas accuser de n'importe comment. Alors les hommes vont insister. Comme ils continuaient à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit, Jésus s'est abaissé, il va juste se relever, dire une phrase et il va se rabaisser à nouveau. Et que dit-il ? Une seule chose qui est passée dans l'histoire, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire que Jésus répond finalement au désir des pharisiens. Vous voulez qu'on applique la loi de Moïse ? Soit, allons-y. Eh bien, que chacun commence par dire son propre péché. Que chacun fasse la vérité dans sa propre vie. Jésus renvoie chacun à sa propre condition de pécheur. Au cœur dur, au cœur sec, comme ce matin, navrés de l'endurcissement de leur cœur. Ce qui navre Jésus ici, comme ce matin, je trouvais intéressant que nous ayons ce passage dans la liturgie ce matin, parce que c'est exactement, c'est un contexte tout à fait similaire. Jésus, navré de l'endurcissement, renvoie chacun à sa propre conscience, son propre rapport à la loi. Vous êtes exigeant avec la loi, eh bien commencez à l'être avec vous-même. Vous êtes d'excellents païologues, commencez par être poutrologues. Commencez par être poutrologues. Jésus renvoie donc chacun à sa propre misère personnelle derrière son petit personnage social. Car nous nous cachons tous derrière un petit personnage social. Nous tricotons un petit vêtement de vertu derrière lequel nous nous trouvons à nu. Et Jésus met à nu. Car depuis que l'homme s'est trouvé un jour à nu dans un certain jardin devant Dieu, il cherche à se masquer et a peur que l'on voie sa nudité et sa pauvreté. Les conséquences du péché originel sont là dans nos vies à chacun. Je suis nu et j'ai eu peur. Et une fois que Jésus leur a signifié jusqu'où va la quête de la vérité et de la non-honnêteté avec la loi, qu'est-ce qu'ils font ? Une fois qu'il a fait tomber les masques, une fois qu'il leur a montré leur propre vulnérabilité, leur propre péché, eh bien, l'épilogue, qui est absolument magnifique, s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Il leur rappelle le rituel de la sota. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Ce qui est plein de tendresse pour l'aventure humaine. On peut avoir beaucoup d'illusions à 20 ans. C'est normal, sinon on n'aurait jamais 20 ans. C'est le temps de la radicalité de certaines illusions. Mais c'est bien, il le faut. Mais ensuite, le réalisme finit par l'emporter, et avec l'âge, le réalisme nous ramène à une pauvreté qui demeure toujours un peu. Voilà. Et donc, les plus âgés partent les premiers parce qu'ils ont compris la leçon. Ils savent bien, eux. Et c'est ce merveilleux apophtègme des Pères du désert où un jeune qui voit dans le monastère un homme, un moine qui est en odeur de sainteté, il vient lui demander « Qu'est-ce que tu fais au monastère ?» Et l'ancien lui dit au monastère « Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. » Ça tient en une phrase. Hein. Mais c'est ce qui fait les saints. La persévérance à se relever. Donc ils s'en vont et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné. » C'est très intéressant parce que Jésus reste seul. En fait, il n'est pas seul, il y a la femme. Et la femme reste toujours là, au milieu du cercle. Et là, la traduction de la Tobe est assez bonne. C'est la traduction du grec. Elle est vraiment au milieu du cercle que formaient les hommes. Ce qui veut dire qu'elle est toujours enfermée. Et ça, c'est ce que nous dit l'Évangile. Elle est toujours encerclée. Elle n'est plus enfermée, encerclée par les hommes, mais elle est enfermée, encerclée par quoi ? Par sa culpabilité et son péché. Et c'est alors que Jésus, vous le savez bien, vous êtes des prêtres, vous passez votre vie à pardonner, à consoler, à relever. C'est là où Jésus introduit cette merveilleuse différence entre le péché et le pécheur. Et cette distinction qui permet tout l'espace de la miséricorde, de la conversion. Jésus ne la résume pas à son péché. Il ne la laisse pas enfermer dans son péché. Il fait d'ailleurs presque de l'humour hein, quand il dit « Où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné. » Comme s'il était surpris de voir tout le monde est parti. Et vous voyez que Jésus lui dit « Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. » Elle a péché. Et on peut imaginer que dans son cœur de femme, dans son cœur de pécheresse, elle est en pleine conversion, en plein repentir de ce qu'elle a fait. Jésus ne la condamne pas, mais l'invite à ne plus pécher. Il lui ouvre par la miséricorde tout le chemin de l'espérance. C'est ce que nous avons nous-mêmes à faire dans notre ministère, vous le savez bien. Cette expérience donc, du péché, de la miséricorde, au chapitre 8, dans cette rencontre avec cette femme adultère, pose la question du combat spirituel dans nos vies. Car Dieu donne sa grâce, il donne sa vie. Mais vous le savez bien, cette expérience rencontre des résistances en nous. Ce combat spirituel, il peut prendre des formes différentes. Je vais les évoquer très rapidement. Vous le savez, mais ce n'est jamais inutile de faire des révisions. Il y a le contrôle technique, il y a aussi le contrôle mystique. Il faut parfois faire les 40 points de contrôle. Là. Il y a au moins quatre formes du combat spirituel que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Et qu'il est important de distinguer pour nous-mêmes, mais aussi pour l'accompagnement des personnes qui viennent à nous. La première forme du combat spirituel, c'est la tentation, vous le savez. La tentation qui ne vient jamais de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 13, « Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation vient de Dieu, car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. » La tentation vient de quoi ? La tentation vient de notre humanité blessée, fragilisée par le péché des origines, et elle vient aussi par l'ennemi de la nature humaine, comme dirait saint Ignace de Loyola. Les esprits répandus dans les airs, dirait Paul, dans les Faits aux Éphésiens, chapitre 6, La tentation, c'est très important de le comprendre spirituellement, elle vise à nous humilier, à nous faire tomber et à nous décourager. Il n'y a rien, je pense, qui ne fasse plus plaisir à celui qui est dans l'ombre et dans les ténèbres que le fait que nous soyons découragés et que nous jetions l'éponge dans le combat spirituel. C'est la raison pour laquelle la tentation porte toujours sur un point de fragilité. Pour nous humilier, nous décourager. Comme le dit d'ailleurs saint Ignace dans les exercices, elle disparaît, cette tentation, dès que nous la mettons dans la lumière en nous confiant à quelqu'un, un confesseur, un père spirituel, voire même un frère dans le dialogue spirituel. Comme dit saint Ignace, le père du mensonge est un spécialiste de l'art militaire, il fait le tour de la place, il cherche le point le plus fragile et il attaque sur le point le plus fragile. Vous êtes orgueilleux, vous serez tenté sur l'orgueil. Vous êtes avare, vous serez tenté sur l'avarice. Vous êtes fragile du point de vue de l'affectivité, vous serez tenté sur l'affectivité. L'important, c'est de se souvenir que le combat spirituel, de manière générale, mais la tentation en particulier, nous ne la vivons jamais seuls, mais comme membres d'un corps. Et donc notre lutte n'est pas seulement notre lutte personnelle et intime, c'est aussi la lutte de toute l'Église. Si toute âme qui s'élève élève le monde, en même temps, toute âme qui tombe entraîne d'une certaine manière, manque à l'Église et à sa sainteté. Il y a une petite histoire qui est très intéressante, je ne sais pas si vous la connaissez, mais saint Vincent de Paul avait un ami professeur en Sorbonne, par exemple, qui était tenté, alors pas du tout dans la chair, dans l'affectivité, mais intellectuellement contre le dogme de la Trinité. Il avait des tentations épouvantables. Et saint Vincent de Paul, il le raconte dans une de ses conférences spirituelles, va alors prier Dieu et va demander au Seigneur que la tentation de son ami passe sur lui. Et il va être parfaitement exaucé. L'autre va être délivré de sa tentation et Vincent de Paul va commencer à connaître des tentations très fortes contre le dogme trinitaire. Il raconte qu'il ne tenait que parce qu'il avait écrit le credo et qu'il l'avait cousu à l'intérieur de son vêtement et que dès que la tentation venait, il pressait contre lui le credo pour tenir dans la tentation. Donc c'est très important de se rappeler que nous ne nous battons pas tout seuls. L'esprit mauvais nous isole dans la tentation. Il nous fait croire que nous sommes tout seuls. Tout seul à être nul, tout seul à être fragile, tout seul. Non, non, non. Nous combattons avec, tous ensemble. Comme membres d'un même corps. La tentation aussi, mais je n'étends pas ici, vous savez bien, elle peut être plus subtile encore, puisqu'elle peut être sous l'apparence de bien, sub specie bonis. C'est encore un peu plus subtil, c'est la deuxième semaine dans les exercices de saint Ignace. Mais c'est aussi un élément à connaître. Deuxième élément du combat spirituel, c'est l'épreuve. L'épreuve, autant la tentation porte sur notre point de fragilité, autant l'épreuve, pour nous faire tomber, autant l'épreuve va porter sur un point qui va nous permettre de redire notre oui à Dieu. C'est comme ça que nous distinguons la tentation et l'épreuve. Prenez de bon cœur, dit l'épître de saint Jacques, toujours au chapitre 1, verset 2, prenez de bon cœur toutes les épreuves. L'épreuve fait partie de la croissance spirituelle, du combat pour la croissance. Prenez de bon cœur toutes les épreuves par lesquelles vous passez, sachant que le test auquel votre foi est soumise produit de l'endurance. Voilà. L'épreuve est faite pour nous faire grandir. Elle porte non pas sur un point de fragilité, mais sur un point où nous allons pouvoir redire notre oui à Dieu. Par exemple, au hasard, à Lourdes, en retraite, le modérateur de ma communauté vient me voir et m'annonce, moi qui suis si bien dans l'endroit où je me trouve, il va peut-être falloir que je prépare mes valises pour aller ailleurs. Si je suis bien où je suis, en communauté, dans mon ministère, etc., qu'on le veuille ou non, nous sommes quand même des êtres faits de chair et de sang, ça risque un tout petit peu d'être éprouvant. Ou alors... je suis dans un diocèse, le vicaire général me convoque. En général, comme on dit, ça ne sent pas bon. En tout cas, ça sent la valise, ou ça sent le voyage, ou ça sent le déplacement. Ou... voilà. Donc, mais c'est le moment où Dieu va nous redemander de dire notre oui. Et donc, l'épreuve participe à notre croissance en sainteté. Elle nous permet de redire oui à Dieu. Intéressant, par vos sourires, je vois que ça évoque des choses quand même. Troisième dimension du combat spirituel, c'est l'illusion. L'illusion qui est une manière erronée de voir la réalité, disproportionnée. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Il y a une déformation du réel. C'est comme l'effet immédiat du péché originel en Genèse 3. Adam s'est réjoui d'Ève, enfin la chair de ma chair, les os de mes os. Et puis, immédiatement après le péché, lorsque la femme est là et que Dieu vient faire le constat après l'accident, la femme que tu m'as donnée. Déformation de la réalité. L'illusion. On déforme le réel. Et puis, quatrième dimension surtout, qu'on connaît bien aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur ce sujet, c'est la question de l'assédie. L'assédie, qu'est-ce que c'est ? L'assédie, c'est une pathologie du désir, une maladie du désir, qui a été mise en relief par les moines, ce qui veut dire qu'elle n'est pas liée à la société de consommation, mais que notre société de consommation a admirablement compris le fonctionnement de l'assédie et joue fondamentalement sur ce bouton pour nous mettre en peine et pour nous mettre en laisse et en dépendance. C'est peut-être, Jean Cassien le dit, il y a deux formes d'assédie, qui est un amour désordonné de soi-même au départ. Première forme d'assédie, c'est le dégoût pour les choses de Dieu. La liturgie qui me portait, l'oraison que j'aimais vivre, tout d'un coup n'ont plus de goût, ne me parlent plus, ne me nourrissent plus. C'est toujours la même chose, toujours les mêmes antiennes, toujours les mêmes folies. Ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé. Je ne le croirais pas. Parce qu'on a tous un tout petit peu d'assédie, parfois sous la ligne de flottaison. Vous voyez, c'est... L'assédie, donc, elle est présente d'abord, et c'est très intéressant à expliquer à nos fidèles en paroisse. Et beaucoup de nos fidèles que disent la messe, c'est toujours la même chose. Ah, oui. Justement, c'est toujours la même chose. C'est justement pour mettre les maladies en relief que c'est toujours la même chose. On n'a pas besoin de faire du saut à l'élastique dans la nef ou de mettre des lasers ou des fumigènes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à une certaine inventivité dans le chant, dans le, voilà, enfin, à toutes les époques, on a généré des cantiques, etc. Mais je crois que c'est très intéressant aussi d'expliquer à des fidèles pourquoi ça les agace que ce soit toujours la même chose. C'est que c'est peut-être le signe d'une maladie spirituelle. Vous savez, il y avait un moine de l'abbaye de Timadoc, je crois bien, avec un médecin qui avait écrit un livre sur l'assédie il y a au moins 30 ans. Et le moine disait, il avait traduit le mot assédie, acédia, en aquabonite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette formule. L'aquabonite. À quoi bon prier ? À quoi ça sert ? À quoi bon aller à la messe ? C'est toujours la même chose. On retombe toujours dans les mêmes péchés. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Le père Découvement, qui avait prêché une retraite au séminaire de Strasbourg alors que j'étais supérieur, nous avait dit... Évidemment, on tombe toujours dans les mêmes péchés. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne va pas essayer des trucs nouveaux juste pour avoir des choses nouvelles à raconter. Hein. Du bon sens. Voilà. Donc, première manière de l'assédie, dégoût des choses de Dieu. Deuxième façon dont l'assédie est présente dans nos vies, et ça c'est très fréquent chez nos contemporains, c'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on a et on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est le désir qui devient fou. Il a toujours besoin d'autre chose. Il est toujours en mouvement. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Mais tant qu'il ne demeure pas en toi, il est soumis à cette pression et le désir peut ainsi devenir fou. Et notre affectivité peut devenir tyrannique en nous. Vous savez bien. Alors l'assédie est complexe. On ne va pas prendre plus de temps pour en parler, mais c'est un des aspects donc, du combat spirituel. Et l'assédie, en particulier, est compliquée parce que l'assédie, quand elle apparaît dans une vie, en général, elle est déjà profondément enkystée dans la vie de la personne. Les moines anciens disaient que c'était une rouille de l'âme. Alors, au début, les engrenages commencent à rouiller, ils continuent de tourner. Mais au bout d'un moment, la rouille bloque tout. Et donc, quand ça bloque, la rouille est déjà là depuis un moment. Et particulièrement, l'assédie est difficile à discerner. Pourquoi ? Parce qu'elle se cache en général derrière une fausse charité, un activisme de la charité. non pas une charité authentique, douce, humble, mais une charité orgueilleuse, vaniteuse. C'est Jean Tolère qui dit dans les couvents, les malades de la cédille ont toujours une visite à faire à un frère qui a besoin d'une visite parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il n'est pas bien. La cédille se casse derrière de faux motifs. La cédille conduit au manque de pureté, de droiture d'intention. Pourquoi ? Parce que la cédille, en particulier, progressivement nous enlève la paix intérieure. Tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sait pas rester seul. Un grand classique de la littérature française, ça. Dans sa chambre. C'est Blaise Pascal. Tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sait pas rester seul dans sa chambre. Ce que décrit Pascal, c'est la cédille. L'homme malade des cédilles, regardez la difficulté à durer dans les choses, à persévérer dans les choses. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le symptôme de la cédille en général, c'est l'instabilité perpétuelle, l'agitation perpétuelle, l'incapacité à durer, la procrastination, toujours remettre à demain, ne jamais terminer un livre, en commencer 25, commencer 15 lectures, n'en terminer aucune, toujours en train de passer à autre chose. L'incapacité perpétuelle, une agitation, une incapacité à durer, l'incapacité surtout, je vous l'ai dit, à la banalité. La grâce de Dieu agit dans le banal de la vie. Mes maîtres jésuites à l'Institut de spiritualité à Rome disaient toujours, on n'a pas la grâce pour ce qu'on imagine. On n'a pas la grâce pour ce qu'on imagine. On a la grâce pour ce qu'on vit ici et maintenant. Et donc le remède à la cédille en particulier, c'est la désintoxication du désir. Sevrer le désir. Remettre de l'ordre. Remettre de la stabilité. La tentation... L'épreuve, l'illusion, la cédille sont des combats qui peuvent nous conduire à chuter, tomber, pécher. Mais, j'en termine là, dernière partie, s'il y a l'expérience du péché et de la rupture d'alliance avec Dieu, il y a aussi l'expérience de la miséricorde. Et pour cela, il faut alors nous rappeler d'emblée, c'est notre rôle de ministre de la miséricorde. C'est notre rôle de rappeler aux chrétiens qui viennent à nous, aux catholiques qui viennent à nous, ou à ceux qui ne sont pas encore catholiques et qui ont envie de le devenir, eh bien qu'il y a, comme disait le père Victor Sion, la chance du pécheur. Ça surprend, hein, comme ça. Mais il y a la chance du pécheur. Je lis ce que dit Victor Sion, Victor de la Vierge, Carme. La chance d'être pécheur est annoncée tout au long de l'Évangile.
Pensez à la femme adultère ce matin, pensez à la Samaritaine hier. La chance d'être pécheur est annoncée tout au long de l'Évangile, mais...
La chance d'être pécheur est annoncée, ça va ? Tout au long de l'Évangile, mais le christianisme faussé, quelque peu pharisaïque, nous a obscurci les yeux sur cette chance offerte par Dieu. Qu'est-ce que veut dire Victor Sion ? Il nous dit que pécher, être pécheur est une chance, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pécher plus, bien évidemment. Mais je poursuis ce qu'il nous dit. On a pu penser que pour connaître Dieu, il fallait être impeccable. Or, la bonne nouvelle est généralement tout le contraire. D'ailleurs, regardons l'Évangile, Jésus rencontre d'abord des pécheurs. Quand on est pécheur, le Seigneur s'invite chez nous, et c'est ainsi qu'on le connaît, c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Rappelez-vous, les pharisiens sont des gens très bien, le seul problème, c'est qu'ils le savent. Dès que vous sentez que vous êtes très bien, consultez. Parce que Dieu est terrible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est attiré par ce qui est pauvre et petit, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous l'a heureusement rappelé. Il ne s'agit pas de jouer à l'aigle, il s'agit d'être un petit oiseau. En tout cas, si c'est notre vocation. C'est Léon Blois, dans une lettre à Jacques Maritain, qui écrit, je trouvais cette formule un jour dans les carnets de Maritain, « Il n'y a pas de pécheur en enfer. » Léon Blois avec son sens de la formule. Hein. « Il n'y a pas de pécheur en enfer, il n'y a que des méchants, car les pécheurs sont les amis de Jésus. » Il n'y a pas de pécheur en enfer, il n'y a que des méchants. Car les pécheurs sont les amis de Jésus. Et saint Augustin nous dit, parlant de la fatigue de Jésus au bord du puits de Jacob, je vous l'avais déjà dit hier après-midi, ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu lui-même qui court après le pécheur et le fait revenir à lui. Le curé d'Ars a des formules très proches. Il faut donc nous dire une chose, d'une certaine manière, une fois pour toutes, de toute manière, nous sommes tous pécheurs et nous le resterons jusqu'à la fin de notre vie. Alors, les modalités changeront, bien évidemment. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que même le juste pèche 7 fois par jour, et la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 1, nous dit « Celui qui dit qu'il est sans péché fait de Dieu un menteur. » C'est du péché dans notre vie. C'est que c'est Sainte Thérèse d'Avila, après le mariage spirituel, dans les 7e demeure, dans le château intérieur, qui s'étonne encore de pouvoir pécher. Elle constate qu'il y a encore du péché dans sa vie, même après cette union spirituelle, elle est encore dans la condition temporelle. De toute manière, nous sommes tous pécheurs, mais ce n'est bien évidemment pas une invitation à pécher plus ou à inventer de nouveaux péchés. Mais ça demande de travailler spirituellement notre bonne volonté, notre désir sincère de conversion sans jamais nous décourager. Vous le savez bien, si vous confessez souvent, le vrai péché dans le péché, c'est souvent le péché de manque d'espérance, de manque de foi dans la capacité à Dieu de pardonner. Le découragement, la désespérance, la résignation, l'aigreur vis-à-vis de soi-même. Je ne vous ai pas dit, moi quand je suis revenu de Rome, j'ai été nommé vicaire dans une paroisse du sud Alsace, puis et aumônier d'un collège épiscopal de 1200 élèves à côté de Mulhouse, le collège épiscopal de Tillisheim, sorte de collège anglais, on pourrait tourner un épisode de Harry Potter dedans. Voilà, splendide. Et puis j'intervenais déjà au séminaire dès la première année comme formateur, puis on m'a confié quelques directions spirituelles. Voilà. Au bout de 3 ans, je suis parti chez les Carmes pour un temps de 5-6 mois. Qui m'ont beaucoup aidé pour mieux grandir dans la vie d'oraison. Puis ensuite, je suis revenu en Alsace et j'ai été nommé à plein temps au Grand Séminaire comme directeur, ce que je vais être pendant 4 ans pratiquement. Et en même temps, je serai prédicateur et confesseur à la cathédrale et cérémoniaire. Et donc, j'ai été pendant quelques années confesseur à la cathédrale de Strasbourg. Et c'est une chose dont je me suis convaincu peu à peu, et parce que les gens, vous savez, viennent de loin pour se confesser dans une cathédrale. Font des kilomètres, parfois pour chercher un endroit où ils sont sûrs de... Et je dis parfois en souriant, en jaune, je dis, je pense que j'ai entendu tous les péchés, sauf l'attentat contre le pape. Tout le reste, je crois que je l'ai vu. Mais ce que j'ai souvent découvert, c'est que derrière le péché que les gens venaient confesser, en fait, il y avait la désespérance comme vrai péché. La désespérance. Finalement, les gens n'y croyaient plus, ou n'y croyaient pas. Ils ne pensaient pas que Dieu puisse être aussi bon, miséricordieux avec eux. Et ce n'est pas par hasard, je pense, si Thérèse de Lisieux, je me souviens, j'étais place Saint-Pierre le jour de son doctorat, ce n'est pas par hasard qu'elle nous a rappelé l'importance de la miséricorde, que sœur Faustine nous a été donnée, que Jean-Paul II a écrit « Dives in misericordia », qu'il y a un deuxième dimanche du temps pascal qui est le dimanche de la miséricorde. Ça ne veut pas dire tout pardonner n'importe comment, bien évidemment. On sait le désastre que ça a pu donner, en particulier, vous le savez bien, dans les affaires d'abus, où la miséricorde a été interprétée de manière totalement illusoire, comme étant « il ne s'est rien passé ». Si, il s'est passé des choses. Et il y a un péché dans la vie des personnes. Mais il y a la miséricorde aussi. Il y a le repentir, il y a la conversion qui est possible. Donc l'importance de la miséricorde, l'importance de redonner l'espérance et de permettre aux gens d'avoir foi dans la miséricorde. Ça demande, et je termine avec ça, trois petites choses. Premièrement, aider ceux qui viennent à nous à rompre avec le péché. Je crois que c'est toujours important de leur dire là où est le péché et de le dire qu'il est là vraiment. Ça ne dit pas de dire que ce n'est pas important. Combien de gens parfois sont découragés parce qu'on leur dit ce que vous avez fait, ce n'est pas important. Si, c'est important. Et surtout pour eux, c'est important. Ce qui n'empêche pas un jugement sur la matière qui nous permet parfois de rééquilibrer et de dire ça, ça n'est pas un péché. Par contre, ça, vous ne l'avez pas dit peut-être, mais dites-moi un peu et là, on va voir qu'il y a peut-être autre chose. Donc, c'est notre travail de discernement dans le sacrement de la réconciliation. Il s'agit d'abord d'aider à rompre avec le péché, premièrement. Deuxièmement, il s'agit bien évidemment d'aider ceux qui viennent à nous de voir le progrès dans leur vie spirituelle. Vous savez bien que c'est le gros de notre travail, de trouver le moindre fil à partir duquel nous allons pouvoir tirer les gens vers quelque chose de meilleur et de les sortir de leur découragement. La formule de sœur Yvonne Aimée de Malestroit, hein, le saint n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours, qu'on attribue parfois faussement à Thérèse de l'Enfant Jésus. Puis l'apophtegme des pères que j'évoquais tout à l'heure, hein, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, c'est la condition humaine et c'est la condition chrétienne. Mais on ne tombe pas de la même manière. Et parfois on se relève plus vite. Il y a des textes admirables du père de Caussade, qui est un jésuite salésien, sur la miséricorde et la manière de se relever après le péché. Si vous avez ça dans vos bibliothèques, allez lire ça, c'est absolument splendide. Et puis troisièmement, donc rompre avec le péché, voir le progrès, parce que le vrai risque, troisièmement, ce serait laisser des gens dans le cercle où était la femme adultère ce matin, souvenez-vous. Les hommes sont partis et elle était toujours au milieu du cercle. C'est-à-dire laisser les gens dans l'enfermement de la conviction qu'ils ne valent plus rien. Je ne voudrais pas faire du Jacques Lacan à dessous, hein, mais c'est l'enfermement. C'est le mensonge de l'enfer personnel dans lequel on se met soi-même, en ne voulant pas croire, en ne pouvant plus croire à la miséricorde de Dieu. Peut-être parce que l'image de la personne est touchée, est atteinte. Souvenez-vous de ce que disait le curé d'Ars, hein, cette merveilleuse formule avec ce style inimitable dont il a le secret. Le bon Dieu sait toutes choses. D'avance, il sait qu'après vous êtes confessé, vous pécherez de nouveau. Et cependant, il vous pardonne. Quel amour que celui de notre Dieu qui va jusqu'à oublier volontairement l'avenir pour nous pardonner. Dieu se fait amnésique par amour pour nous. Alors je vous invite peut-être à reprendre ce texte. Et bien évidemment, si vous le voulez bien, ce sont toujours des propositions que je vous fais. D'abord peut-être à reprendre la question du combat spirituel, la manière de le discerner dans vos vies. Parce que vous savez bien que le discernement est important des symptômes parce que les remèdes ne sont pas les mêmes. La cédille, ça ressemble à la désolation, mais ce n'est pas la même chose. Ça ressemble à la nuit spirituelle, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut savoir articuler ces choses-là. Posez-vous un peu la question Où en êtes-vous pour votre propre vie, dans l'accompagnement que vous faites? Et puis, la question de la miséricorde. Nous sommes tous, par notre ministère, et c'est une des merveilles de la grâce de Dieu, nous sommes tous des confesseurs. Comment est-ce que nous vivons notre ministère à la lumière de ce que j'ai peut-être pu vous partager? Comment nous le vivons aussi, d'ailleurs, pour nous? Je vous propose de nous confier à la fin de cet entretien à la Mère de Miséricorde, refuge des pécheurs. J'étais formé au séminaire français de Rome où elle était présente partout. Alors ça ne s'oublie pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame, Mère de l'Église, priez pour nous.
Pardon de vous déranger dans la retraite. Deux petits messages. Un petit conseil qui m'a été rappelé. Il serait bon qu'à table, nous desservions pas trop vite pour laisser à tout le monde le temps de manger. Parce que je crois que certains prêtres de côté sont tellement efficaces dans le service.